dans le vif du sujet, hein, sur le, avec le temps 1, sur l'urgence d'agir. Bonjour Pierre Cerne. Est-ce que Pierre Cerne est avec nous?
Je n'avais pas récupéré la possibilité d'ouvrir le micro. Bonjour à tous et toutes. Merci pour ce webinaire assez impressionnant, qui est un sacré boulot aussi. Je vais commencer tout de suite en fait et rapidement par expliquer en fait la mission entre guillemets, mais on va l'appeler comme ça par facilité parce que tout le monde l'appelle comme ça, donc on va faire comme ça. Donc la mission que la ministre Elisabeth Borne m'a demandé de coordonner avec le Club des villes et territoires cyclables que je préside, qui est une coordination en fait des remontées d'initiatives des collectivités locales en matière d'aménagement cyclable temporaire, provisoire, tactique. Chacun utilisera le vocabulaire qu'il préfère, et surtout de faire remonter un certain nombre de demandes des collectivités, de besoins des collectivités, de freins et d'obstacles éventuels à lever. En fait, c'est pas éventuel puisqu'on en a déjà repéré un certain nombre et qu'il en remonte du terrain depuis maintenant quelques jours. Tout ça, je vais le faire avec l'aide précieuse des services de l'État et notamment de la CIDUV, donc de la coordination interministérielle, du CEREMA, de l'ADEME, avec un pool en fait d'associations, on va dire, qui travaille en fait, on travaille un peu collectivement sur ces sujets pour ne pas rater, ne pas oublier des éléments, donc avec la FUB, avec Vélo et Territoire, avec la F3V, avec l'Union Sport et Cycle, j'en oublie, mais voilà, on travaille, c'est un travail vraiment collectif dont le but est vraiment de faire remonter au plus vite les initiatives, les besoins, les demandes, pour que, en gros, à partir du moment où il commencera à y avoir des confinements et donc il commencera à y avoir reprise d'un certain nombre d'activités, on soit prêt sur le terrain à accueillir le probable grand nombre de cyclistes qu'on va sans doute voir dès la reprise des activités, qu'on voit déjà d'ailleurs à certains endroits. D'abord parce que c'est assez naturellement le mode de déplacement qui permettant une forme de distanciation sociale est adopté par un certain nombre de gens. Et puis parce que on sait aussi qu'il n'y aura pas reprise de l'activité des transports en commun de façon normale et probablement pendant un bon moment, à la fois parce que les réseaux ne pourront pas accueillir dans des conditions de distanciation sociale et de bonnes conditions l'ensemble des usagers qui les prenaient auparavant, et aussi parce que on anticipe une difficulté psychologique, on va dire ça comme ça, que les usagers auront à reprendre facilement et rapidement leurs déplacements normaux. Je fais une parenthèse. De toute façon, je pense que ça va être un moment aussi où il va falloir reparler beaucoup de démobilité, parce que on n'y arrivera pas de toute façon si tout le monde reprend le même nombre de trajets et les mêmes types de trajets qu'il y avait avant. Donc, ça pose des tas de sujets qui dépassent le vélo, comme le maintien d'une forme de télétravail, la réduction du nombre global de trajets, mais ça, c'est une autre histoire, mais ça s'inscrit quand même dans un cadre comme ça. Le cœur de tout ça, c'est évidemment la question des aménagements qu'on peut faire rapidement, donc pour élargir, créer des aménagements cyclables. Mais on a très vite vu aussi que ça s'élargissait à d'autres sujets, la question des piétons qui est remontée quasiment immédiatement à partir du moment où on a parlé de ces aménagements urbain temporaire, la question aussi des engins de déplacement personnel. Donc on a quelque chose qui en fait part des aménagements cyclables temporaires et qui va attraper au passage probablement un certain nombre d'autres sujets. La question par exemple de la disponibilité des vélos qui s'est posée, c'est-à-dire que si on réussit à faire de bons aménagements cyclables temporaires mais que les nouveaux cyclistes ne trouvent pas de vélo, ça va pas marché. Et donc, on est en train de s'assurer que tout ça fonctionnera bien, y compris d'ailleurs avec la question d'éventuelles nouvelles aides à l'achat, à la réparation, à l'équipement, pour que tout ça se passe de manière accompagnée et fluide. Alors, tout ça, ce sont des pistes. Hein, je dis pas que tout ça est acté, mais c'est le type de piste sur lesquelles on travaille pour que, à partir de la mi-mai et plus probablement dans les semaines qui suivront, on accompagne en fait une montée en puissance du vélo, y compris avec des néocyclistes, ce qui veut dire quand même qu'il y a toute une série de questions qui se posent de sécurité, de formation, d'apprentissage. Donc tout ça attrape assez large. Une autre question que j'ai moi posée depuis le début et qu'on est nombreux à poser, c'est la question, si on peut dire, de la cohérence des messages de l'État en la matière. C'est-à-dire que on peut pas dire d'un côté que le vélo va être un mode de déplacement prioritaire, privilégié, adapté à la crise, à la sortie de crise, et dans le même temps avoir des préfets qui continuent à fermer des pistes cyclables existantes et des forces de l'ordre qui, d'un endroit à l'autre, verbalisent des cyclistes en dépit de tous les textes légaux qui encadrent pour l'instant les choses. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on a déjà fait remonter et qu'on va continuer à faire remonter, chacun à sa manière, vu que la FUB, mais c'est très bien, le fait via la justice administrative. Il y a des, voilà, on ne désespère pas d'avoir une prise de position clair et au plus haut niveau de l'État sur le sujet pour dire que le vélo est bien un mode de déplacement soutenu par l'État dans la période et que donc il faut que tout ça soit cohérent. Il y a aussi la question évidemment des parkings vélos, de la question du vol de vélo. En gros, toutes les questions qu'on se pose à longueur de temps dans les associations cyclistes et dans le monde du vélo vont se poser très fortement et très rapidement, et donc il faut que tout ça soit anticipé, préparé, si on veut pas que on ait super bien fait un certain nombre de choses et que tout rate parce que on n'aura pas vu un des éléments clés de tout ça. On a déjà un certain nombre de remontées, de choses qui, enfin, très sincèrement, vous avez dû le voir, et d'ailleurs le nombre de personnes qui sont présentes à ce webinaire dit beaucoup. Il y a une attente énorme, il y a une disponibilité, une volonté de faire qu'on a rarement vu, en tout cas dans le monde du vélo. Si on, voilà, c'est un contexte qui est terrible, mais si de ce contexte terrible on sort avec une avancée énorme et rapide pour les questions de déplacement, des mobilités durables et du vélo, on aura au moins réussi ça. Donc, il y a beaucoup de remontées qui nous arrivent. Alors, d'un côté, des associations, des entreprises, et ça, il y a un questionnaire notamment de France Mobilité qui recueille ça. Et puis, côté villes et territoires, du Club des villes et territoires cyclables, on a aussi un questionnaire qui concerne cette fois les collectivités. Pour votre information, en quelques jours, on a déjà 40 collectivités qui nous ont fait remonter des propositions, des évaluations, des cartes parfois, de ce qui est prévu et de ce qui va se faire. Tout ça va nécessiter, et je pense que c'est ça, en fait, le plus compliqué et qui va être vraiment la clé de la réussite. C'est quelque chose que les cyclistes et les associations cyclistes et ceux qui travaillent là-dessus depuis longtemps connaissent par cœur, c'est-à-dire la question de la continuité des itinéraires. C'est pas parce qu'ils sont temporaires ou tactiques qu'ils ne doivent pas être continus si on veut que ça marche. Et la continuité des itinéraires cyclables, ça dépend beaucoup de la cohérence des gestionnaires de voirie. Et on sait bien que les gestionnaires de voirie ne sont pas, enfin voilà, il y a une multitude de gestionnaires de voirie sur certains territoires, et donc la cohérence et la continuité de ces itinéraires va être, je pense, et on est un certain nombre à penser, le principal problème, enfin le principal enjeu, le principal obstacle à surmonter, et on doit le faire vite. Et donc pour l'instant, on pense qu'il n'y a pas forcément les outils réglementaires pour ça. Et là, c'est clair qu'on va avoir besoin très fortement de l'État pour nous, pour aider à avoir des cohérences d'itinéraires, des continuités d'itinéraires, y compris quand on a plusieurs gestionnaires de voirie qui ne sont pas forcément tous sur la même longueur d'onde. On peut pas avoir un super aménagement cyclable temporaire sur 2 kilomètres, puis 1 kilomètre de rien du tout et une reprise de 2 kilomètres. On sait que du coup, ça, c'est un frein énorme à la pratique du vélo. Et donc, il faut qu'on arrive à essayer de lever ce type d'obstacle. Je termine en disant deux choses. D'abord que on est obligé de travailler très très vite, hein, parce que en gros il faut qu'on ait expérimenté des choses dans les jours et semaines qui viennent pour avoir des choses à proposer de façon un peu globale, y compris pour les collectivités qui ont peut-être moins l'habitude de mettre en place des aménagements cyclables. L'objectif est d'avoir début mai éventuellement une sorte de premier document guide ou vademecum qui pourrait permettre de proposer des choses assez simples à faire, une sorte de mode d'emploi avec les bonnes pratiques qu'on aura repérées pour que les collectivités qui auront à mettre en place ces aménagements puissent le faire de façon à peu près cohérente et sécurisée. Je pense qu'on est en train de vivre de toute façon en général une période qui nécessite d'inventer énormément de choses nouvelles, de s'adapter. Je pense qu'il va y avoir des choses qui va falloir changer. On aura fait au mauvais endroit ou on n'aura pas forcément fait comme il faut. Il va falloir s'adapter au fur et à mesure. De la réplicabilité, c'est-à-dire si on fait un truc qui marche que dans une ville, ça marchera pas. Sachant que je parle de ville, mais qu'il y a un très gros enjeu, j'ai oublié de le dire, sur la façon dont on met des aménagements temporaires éventuellement sur des routes entre des villes, dans le périurbain. Et ça, on a quand même beaucoup moins l'habitude de faire. Et pourtant, il va y avoir des besoins. On le voit déjà avec un certain nombre d'hôpitaux qui sont hors centre-ville et où il y a déjà des besoins de créer des aménagements cyclables pour les soignants qui utilisent beaucoup le vélo. Je pense avoir tenu à peu près mon temps. Donc, je vais me taire maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à faire remonter les choses. Utilisez le questionnaire, utilisez-moi. Et puis, je pense qu'on est en train de faire quelque chose d'assez énorme. Et pour la petite histoire, sur l'exemple de la France, et oui, ça arrive, l'Espagne est en train de lancer exactement le même type de démarche, ce qui est quand même pas mal. Donc, je ferai le même webinaire demain matin en espagnol, enfin, traduit en espagnol, pour les assos cyclistes cyclables espagnols, les élus espagnols, les syndicats espagnols. Voilà. Donc, il se passe quelque chose et c'est super. Merci.
Merci beaucoup, Pierre Serne. Donc, une